C'est terminé. Si tu veux te déplacer en voiture, tu n'as qu'à passer ton permis comme font tous les gens normaux.
Mais tu es fou? Tu veux que je te rappelle pourquoi je conduis pas?
Mais l'humanité entière sait pourquoi tu ne conduis pas. Tes grands-parents sont morts dans un abominable accident de voiture, grillés dans les flammes, pauvre petite fille. Tout le monde perd ses grands-parents, Claire. C'était il y a 25 ans.
Mais ils sont morts sous mes yeux. J'ai passé un mois en réanimation à l'hôpital. J'ai eu des grèves de peau. J'ai failli mourir.
Et moi, j'ai failli mourir d'une intoxication à la salmonellose en colonie de vacances. Tout le monde a failli mourir une fois dans sa vie. On n'a pas tous des chauffeurs pour autant.
Inculte.
Qu'est-ce que tu racontes?
15 jours de vacances et t'en portes pas un seul livre.
Oh, tu vas encore me faire chier avec cette histoire de livre? En vacances, je me repose, je ne fais rien. Je me vide la tête.
Mais il n'y a rien à vider, ta tête est déserte. Même Dieu n'est pas dans ta tête, tu n'as pas de Dieu, tu ne vois pas Dieu.
Claire, mais qu'est-ce que Dieu vient foutre ici?
Je voulais un homme biblique.
Tu hurles, Claire.
Je voulais pas un païen, je voulais un homme innombrable, pas un radin de merde.
Tu es complètement taré? Radin?
Un paquet de 100 kilos de fromage râpé.
Tu me traites de radin?
Pour être sûr de pas dépenser un centime au restaurant pendant les vacances.
Redis-le, redis, radin.
Radin, un radin, une pince, un petit garmonnet, un rapia. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette main? Tu vas me frapper!
Espèce de salope!
Mais Pierre! Une cliente. Oh, il a un couteau!
Salope!
Pierre!
Sale pute, je vais te crever!
Non!
Une cliente. Il va la blesser!
Un client. Lâchez-la!
Mais fais quelque chose!
Bah t'es marrante, vas-y prendre un coup de couteau!
Mais il va la tuer!
Sécurité, sécurité!
Mais aide là au lieu de crier sécurité!
Oh, il a planté le couteau!
Alors, donc cette Sabine hérite d'une Sabine. Et ce qui est intéressant dans son rapport à cette Sabine, qui est donc une sex doll, on l'a dit, et qui, dans le mode d'emploi, il est dit que c'est le rêve, la moyenne du rêve de 1000 hommes. On a
demandé leur avis à 1000 hommes, d'élire leur nez préféré, leurs yeux préférés, leur bouche préférée, bon, et on est arrivé à ce résultat-là, qui est cette poupée, et le modèle de cette poupée s'appelle Sabine. Ouais.
Et donc, cette poupée qui est le fantasme masculin par excellence, et limite aussi de la perversion, parce qu'il y a tout un passage aussi sur... tout ce qu'on peut lui faire ou pas lui faire. D'ailleurs, dans le mode d'emploi, il y a un code pénal de ce qu'on a le droit de faire et pas faire, mais qui n'envoie pas en prison. On l'envoie à l'usine si jamais on lui a fait un trou de cigarette. Ou...
Oui. Bon.
Et ce qui est formidable, c'est que Sabine va, elle, créer un autre rapport qui n'a rien à voir. Et c'est vraiment parce que... Alors, ça intervient évidemment à cause de cette agression dans le train, qui fait qu'elle a le sentiment qu'on s'en prend à que c'est pas rien et qu'on s'en prend à le symbole de la femme. Et c'est cette violence originelle qui va les lier et qui va faire que elle va devenir, cette poupée va devenir autre chose et l'instrument de sa libération, donc la libération de, par rapport au rapport... au théâtre dysfonctionnel dans lequel elle évolue, qui sont sa mère, sa sœur et son compagnon. Et de tout... Non, enfin, ce qui est formidable, c'est qu'elle arrive à créer un autre rapport qui est autre que celui cliché qu'on pourrait avoir avec la poupée et que la sœur a, puisqu'elle n'a pas cette capacité de création, puisqu'elle, elle est piégée dans un rôle, on en parlera plus tard, qui est le rôle de la sœur parfaite, et qu'elle reproduit d'ailleurs sur sa fille, qu'elle tyrannise complètement pour que sa fille soit parfaite. Et donc Sabine, finalement, qui est totalement imparfaite, va projeter sur cette poupée plein de choses, donc de l'enfance, et raconter plein de choses de aussi la question que vous évoquiez, la question de la maternité. Et elle, par exemple, elle explique qu'elle a le refus d'être mère. Alors, ça s'explique comment?
Alors, je ne sais pas si elle refuse d'être mère, en tout cas, elle n'a pas d'enfant, et enfin, elle a en face d'elle quelqu'un qui ne lui reproche pas. Elle a un être en forme de femme, qui est immobile, qui est silencieux, et qui, contrairement à sa mère, ne lui laisse pas des messages interminables en lui expliquant que le contraire de la vie qui se perpétue, c'est la mort, et que si elle ne fait pas d'enfant, elle va crever, quoi. Et pour une fois, elle a en face d'elle quelqu'un qui lui permet de parler sans lui assigner un rôle, sans lui couper la parole au bout de 4 secondes. Disons que quand j'étais petite, dans une famille où on parlait beaucoup, il y avait 5 conversations qui se superposaient. Et je me souviens très bien de la sensation que c'est d'avoir... Moi, je suis comme l'héroïne de mon roman, j'avais pas de poupée, j'avais des ours en peluche. Et je sais ce que c'est de se confier à un être inanimé comme ça. Et je sais quel est ce lien très très trouble entre le fait qu'on sait bien que c'est un ours en peluche, mais le fait qu'il puisse nous consoler, nous écouter, et le fait qu'on puisse se tenir dans ses bras et s'y sentir bien, c'est tout à fait réel. Et voilà, moi c'était ça qui m'intéressait, c'était de partir de cette poupée, qui est un objet vraiment, comme vous disiez, un objet, voilà, un cliché sexiste, détestable, et de me dire comment je peux en faire le contraire. Après tout, il a une forme de femme. Comment est-ce que je peux transformer cette compagnie qui est censée être tellement, tellement cheap, tellement vulgaire, tellement agressive, en un monde imaginaire qui rappelle celui qu'ont les enfants au contact des poupées, des ours en peluche, et de cette capacité qu'ils ont à... finalement à écrire un roman. Ça veut dire à prendre pour vrai une relation et à éprouver quelque chose pour un être qui n'existe pas, mais qui existe à sa manière parce qu'il renvoie à plein de rêves. Et là, ces rêves à elle, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir ne serait-ce que parler sans être interrompu, être entendu. Donc elle qui parle jamais, qui est si timide, pendant qu'elle est seule avec cette poupée pendant la journée, elle se met à lui parler. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement admis, en fait, socialement, de parler tout seul à voix haute. Alors, on cherche des excuses pour ça. Et finalement, dès qu'on a un vis-à-vis, dès que là, elle a cette personne en face d'elle, c'est comme si elle avait le droit, devant cette espèce de statue, de totem femme, de parler. Et ça va lui ouvrir tout un monde. Tout un monde, et puis une sorte de projet, en fait, qui va être un projet... d'émancipation, quoi. Comment partir en courant de cette pièce de théâtre dans laquelle elle est emprisonnée, que ce soit avec une espèce de mégalomane de compagnon hyper narcissique, autoritaire, etc. Sa mère, on en reparlera peut-être plus tard, mais moi ce qui m'intéressait dans cette relation, c'est que cette mère, qui lui répète donc tout le temps qu'elle n'a pas eu d'enfant, que sa vie est foutue, et qui lui dit de façon très, très violente, en même temps, il faut entendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire une mère qui, quelle que soit la violence avec laquelle elle le dit, une mère qui vous dit « la chose la plus importante au monde, c'est d'avoir un enfant », ça reste une façon très maladroite, mais une façon quand même de dire « mais la chose la plus importante dans ma vie, ça a été de t'avoir toi ». Alors elle ne sait pas lui dire, et elle lui dit d'une façon très écrasante, mais moi, il me touche aussi ce personnage de mère qui, en fait, ne peut pas s'empêcher d'appeler sa fille 10 fois par jour, qui laisse des messages téléphoniques, sa fille ne répond jamais, et donc elle sait qu'elle a juste ce petit laps de temps pour dire les choses. Et moi, ça, c'est toujours une chose qui m'a fascinée, c'est comment les gens gèrent ce temps qu'on a quand on laisse un message. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que ça dit de soi ? Les informations qu'on choisit ? Est-ce qu'on dit des petits mots tendres à la fin ? Est-ce qu'on est gêné ? Est-ce qu'on sait, voilà, est-ce qu'on sait faire cet exercice de utiliser ce temps pour s'adresser à l'autre ? Parce qu'on a ce temps, en fait. On est écouté pendant 2 minutes. C'est comme si on était écouté par l'univers entier, en fait. Personne nous écoute, tout le monde nous écoute, mais on peut parler, un peu comme Sabine quand elle parle à sa poupée.
D'ailleurs, je vous coupe 2 secondes.
Oui, plus que 2 secondes.
En 2 minutes, on a juste le temps de tirer des balles de fusil à travers une meurtrière, on n'a pas le temps d'être tendre. Et donc cette mère, elle est dans l'écrasement de sa fille avec toutes ses références mythologiques, comme si elle détenait les mythes fondateurs en disant « c'est moi ton aîné ». Et elle est incapable. On voit qu'elle l'aime, effectivement, mais elle l'écrase complètement en permanence. Mais en même temps, Sabine n'est pas dupe de ça non plus. Elle est seule.
Non, Sabine n'est pas dupe, mais en même temps, voilà, elle n'a qu'une mère, c'est celle-là, qui l'écrase de son érudition. Et puis il y a écrasé de son érudition et écrasé de son érudition, effectivement, de mythes, quoi, une érudition mythologique. Donc c'est comme si la mère allait toujours être ce personnage qui nous ramène à l'origine, qui sera toujours plus l'origine que soi. C'est comme si on ne pouvait jamais être un adulte devant son parent. Même entre adultes, la sensation de continuer à être l'enfant de ses parents, c'est aussi, c'est lié, c'est comme les grands frères et les petits frères. Moi, j'ai deux garçons, et l'autre jour, le petit m'a dit « Je vais toujours tout faire après Marius ». Il avait eu une étoile là au ski, et son frère l'avait déjà eu l'année d'avant, quoi. Et donc il me dit « Ça sera toujours, je serai toujours deuxième, quoi, j'aurai toujours après ». Et ça m'a vraiment émue qu'il dise ça, parce que je me dis en fait, cette sensation des aînés ou des plus jeunes, des parents et des enfants, quel que soit le moment dans la vie, quelle que soit la maturité, le moment où on en est, ça continue à avoir un sens, cette répartition des rôles, et ce fait que, même à l'âge adulte, rester l'enfant de ses parents, ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, accepter cette relation-là, où quelqu'un nous explique ce qu'est la vie, quels sont les mythes fondateurs, et alors que, voilà, on pourrait se dire qu'on est entre adultes, que cette espèce de question de qui a fait naître qui s'annule, mais ça, non, ça ne s'annule jamais.
Alors, vous parlez de mythe fondateur, le titre, l'enlèvement des Sabines.
Alors, l'enlèvement des Sabines, pour ceux qui auraient oublié leur lointain cours d'histoire, c'est un épisode légendaire de la création de Rome. Donc, on doit être au 8e siècle avant Jésus-Christ. Romulus est à la tête de ce petit groupe de Romains qui n'ont pas d'épouses, qui se cherchent des épouses, et qui, à l'occasion d'une petite fête équestre qu'ils organisent, vont se servir carrément chez leurs voisins, les Sabins, donc, d'où le nom des Sabines. Et alors, quand on raconte cette histoire, on se dit, bon, bah, c'est une fête équestre, ils n'ont pas de femmes, ils se servent en femmes et tout. Et alors, il faut quand même, quand on réfléchit à ce que ça veut dire, on parle de la création de Rome, dont va découler l'Empire romain, toute notre civilisation européenne, et il est né dans cet acte ultra-violent d'enlèvement des femmes. C'est-à-dire que d'abord, le premier geste, le premier acte, c'est ce corps enlevé, cet arrachement du corps des femmes. Donc il y a quand même cette idée de se dire que de corps en corps, on se transmet ce souvenir, même mythique, même légendaire, d'une agression ultime, quoi, avoir été enlevé et pris comme épouse. Bon. Et les auteurs, je ne sais pas, Tite Live ou qui d'autre a pu en parler, j'ai oublié leur nom, je ne sais pas quels sont les historiens qui ont relaté ces faits, expliquent d'une façon assez. On en pense ce qu'on en pense, qu'il y avait une sorte de bonne volonté de ces Sabines qui finalement se sont dit que c'était pour le meilleur, quoi. Et c'est elles finalement qui ont tout apaisé et qui. Donc c'est fou, c'est-à-dire non seulement on se fait enlever, mais après on passe pour l'espèce d'élément cordial, réconciliateur, qui fait que bah, on est d'accord pour cet enlèvement, finalement c'est bien pratique, ils n'avaient pas de femmes, maintenant ils en ont, et on se rend complice en fait de ce premier acte, disons, sexiste, ultra-violent de l'histoire.
Alors, j'aimerais qu'on parle de la construction de votre roman, parce que moi j'ai eu la sensation d'avoir un puzzle, plusieurs formes narratives, j'en ai compté 12.
Oula.
Ouais,
pas
avec
moi.
Une prédominance de la forme orale. Ouais. Donc il y a les messages téléphoniques dont on parlait, mais il y a les scènes de théâtre que vous avez lues qui sont vraiment comme inscrites dans le livre, comme oui. Une scène de théâtre. Oui. Il y a la poésie. Et puis il y a une évolution, il y a le monologue intérieur de Sabine qui va se transformer en discussion de Sabine avec la poupée, et puis la lettre aussi, et puis il y a des fragments de discours, le récit d'un amateur, et puis ensuite il y a tous les éléments extérieurs qui arrivent, qui vont être le ton journalistique, le scénario, il y a un scénario de pub, il y a une petite annonce rédigée sur internet, il y a la scène sur YouTube. Et alors, ce qui est. Moi, j'ai eu la sensation que ces formes, vraiment, j'ai eu la sensation d'un pulse, parce que ces formes s'impliquaient les unes dans les autres. Et en fait, elles permettaient quoi? Elles permettaient des voix, des tons différents, évidemment. Mais surtout, elles permettaient de construire une réalité à partir de points de vue différents. Et ça, vous avez. C'était une décision de départ
ou... Alors, c'est vraiment intéressant pour moi de vous entendre dire ça, parce que Ça me rappelle à l'école, quand on nous dit « qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur ? Pourquoi l'auteur ?» et là, l'auteur écoute ça et n'a aucune conscience d'avoir trouvé 12 formes narratives. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au début, j'avais écrit ce roman d'une manière beaucoup plus linéaire, avec une forme romanesque assez classique. Et ça ne disait pas ce que je voulais dire. Et le premier choix formel que j'ai fait, c'est de me dire « bah non, cette mère, vu son caractère, la façon la plus propice de dire qui elle est envahissante, comme elle ne laisse pas la parole, c'est de la faire parler par message téléphonique interposé. Bon. » Et puis ensuite, je me suis rendu compte que bah, si je voulais être au plus près de chaque personnage et réussir aussi à dire... Par exemple, il y a son pot de départ. Son pot de départ, le directeur fait un discours pour son départ, et c'est comme si j'avais écrit le discours et que j'avais juste extrait des petits bouts du discours, qui sont des petits bouts qu'on connaît tous, ou des espèces de formules rituelles où on remercie la personne pour ses bons et loyaux services. Et il y a tous ces petits passages où en fait on ne s'adresse pas. C'est complètement interchangeable. Et moi, ça, c'est toujours une question qui m'a travaillée et fascinée depuis toujours. C'est si on parle, c'est pour s'adresser à la personne. Les mots sont choisis et on est censé changer de mots en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Ça veut dire qu'on le prend en considération. Ça veut dire que on n'est pas comme un bulldozer en train de déverser les choses, mais ce qu'on dit a de l'intérêt parce que c'est adressé à une personne en particulier. Et moi, ça m'a toujours effrayé ce genre de discours dont on a l'impression que départ après départ, tous les salariés ont droit à peu près au même discours. Et donc voilà, je me suis dit, la façon de l'exprimer le mieux, c'est d'en extraire les petites parties, voilà, les plus espèces de petits gimmicks comme ça, les petites phrases répétitives, très très stéréotypées qu'il y a dans ce genre de discours, et d'en faire une sorte de poème, comme si on réhabilitait cette chose affreuse et impersonnelle, et on se disait, je garde que des petits bouts pour voir comment je peux le faire sonner, pour une fois, pour entendre en fait vraiment ces mots-là. Et j'ai fait ça avec tout le roman. C'est-à-dire que j'ai effectivement, au fur et à mesure, en écrivant, trouvé des formes, mais sans vraiment me dire, en me creusant la tête, en me disant, alors, quelle forme est-ce que je pourrais trouver ? C'est des choses qui viennent tout à fait, je ne sais pas comment dire, sans que je, voilà, spontanément, sans que je réfléchisse. Mais en tout cas, là, c'est sûr que je me suis accordé une totale liberté. Et j'ai aussi réalisé qu'habituellement, le fait de respecter la forme du roman, plus classique, ça... on s'oblige à tenir dans ce cadre, alors que là, on se dit, idéalement, si je voulais être au plus près de ce que je raconte dans ce couple, c'est-à-dire qu'ils sont des personnages piégés dans leur pièce de théâtre, ça serait de l'écrire sous une forme dramaturgique, tout de suite. Mais on ne se l'autorise pas, parce que ça fait effectivement une forme comme, complètement hybride et tout ça. Donc là, j'ai tout à fait assumé cette forme protéiforme. Mais par contre, j'aurais été bien incapable de dire que c'était au nombre de 12. Et les choses viennent. Disons que la forme a un sens qui est lié presque psychologiquement, charnellement au personnage. Et ce n'est pas du tout une décision froide avant d'écrire où je me dis alors toi, tiens, tu vas prendre un petit peu de théâtre, toi, tu vas prendre un petit peu de message téléphonique. Voilà, ça vient.
Alors, moi, ça a soulevé surtout la question des perceptions différentes d'une même scène. Et ça, c'est flagrant. Sur l'épisode de l'anniversaire de mariage de la sœur, qui se déroule sur 3 chapitres et qui sont 3 versions. Il y a la version du narrateur, la version de Sabine et puis la version de la mère.
Ah oui, c'est vrai.
Et alors, à cet anniversaire, donc Fanny demande à Sabine, donc chaque année c'est la même chose, de filmer cet anniversaire. Ouais. Et Sabine dit, on ne voit pas les mêmes choses, ouais. Et donc c'est ça qui m'intéressait là-dedans.
Ouais. Voilà, donc en fait, cette sœur, tous les ans, fait un anniversaire de mariage, pour bien montrer à tout le monde et rappeler à tous ses amis, à toute sa famille, qu'elle a un mariage parfait, et donc à chaque fois, c'est une sorte d'hymne à l'amour, enfin un hymne à elle-même et à son couple et à sa famille, et tout le monde doit subir tous les ans ce mariage. Et tous les ans, elle demande à sa sœur, un peu cruellement quasiment, de filmer tout ce qu'elle veut dans ce mariage, les gens qui dansent, etc. Et elle n'est jamais contente du résultat, parce qu'effectivement, Sabine, alors, elle s'en amuse aussi un petit peu, mais elle va filmer quelqu'un qui est en train d'écraser sa coquille Saint-Jacques dans l'assiette, en gros plan la bouche de quelqu'un dont on voit les plombages sur les molaires. Enfin, elle a une façon de regarder qui ne fait pas du tout un résultat flatteur. Et je ne m'étais pas rendu compte que du coup, on voyait ça 3 fois, mais il y a aussi le récit qu'en fait la mère. Et moi, ça, c'est un truc qui me passionne, c'est cette question de... comme nos souvenirs ne sont pas fiables, quoi. Comme à chaque fois qu'on vit un moment, effectivement, si on demande à 3 personnes qui ont vécu ce moment dans notre enfance, par exemple, on prend une fratrie, on demande à 3 enfants de raconter ce qui s'est passé, à chaque fois que j'ai fait cet exercice, c'est absolument dingue de se rendre compte qu'on ne se souvient pas des mêmes choses, et quand on se souvient de la même chose, on s'en souvient de toute façon pas du tout de la même façon, et donc on en vient à douter de ce que sont pour nous nos souvenirs. C'est pas du tout des archives, c'est pas comme une espèce de, je sais pas comment dire, de matière historique sûre où on pourrait dire il s'est passé ça et on m'a dit ça, etc. Finalement, toutes les personnes en présence voient les choses absolument différemment et vont ensuite se construire sur ces souvenirs qui n'ont rien à voir, pour les avoir ressentis très très différemment. Donc voilà, ça c'est aussi une, voilà, cette manière de voir comment chacun regarde les choses et déçu de la vision des autres aussi, parce que c'est une façon de dire, tu sais pas, t'as pas su voir la beauté de mon anniversaire de mariage, et sa sœur lui dit, bah non, c'est juste qu'on ne voit pas les mêmes choses. Et c'est voilà, mais on, c'est exactement le, je sais pas, le problème ou la beauté d'un roman, c'est que quand on a des retours de lecteurs, on a l'impression, on a 20 lecteurs en face de soi et on nous présente 20 livres différents. On a toujours la sensation que le livre dont on nous parle, c'est pas celui qu'on a écrit, et chacun est très très sûr d'avoir lu ce qu'il a lu. Et ça, voilà, c'est, mais c'est pas du tout un problème, au contraire, c'est, je trouve ça très beau, ce malentendu absolu sur nos souvenirs.
Et alors, il est question aussi de faux-semblants, donc bon, dans cette sœur parfaite qui veut absolument être en représentation et qui, en fait, se trompe sur elle-même, puisque dans la scène que vous avez lue, alors c'est un autre moment, mais elle dit « Moi, je crois à l'harmonie et à la douceur » juste avant de piquer une crise de nerfs, parce que sur sa fille qui touche à la poupée. Et puis, il y a la question des faux-semblants avec le travail que quitte Sabine, qui est donc la fabrique Gutenberg. Et donc, racontez-nous ce qu'elle fait.
Oui, alors, le métier de Sabine... Donc elle bosse dans une entreprise qui recycle des vieux bouquins qu'elle rachète à l'unité et 5 centimes je crois, et elle et ces bouquins là donc c'est un système d'usine, ils passent sur des espèces de tapis roulants et ils sont recouverts d'une sorte de belle couverture à l'ancienne avec une belle reliure, et ensuite on ajoute là, sur le dos un titre, bon, en général un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, donc Moby Dick ou je sais pas quoi, Guerre et Paix ou bon. Et la particularité du livre, c'est qu'il est complètement hermétique. S'il prend la poussière, on peut le passer au lave-vaisselle, quoi, on peut le nettoyer. On le met dans sa bibliothèque. Et évidemment, donc il y a un livre emmuré dedans qu'on ne peut pas lire. Et puis, il y a le nom d'un livre qu'on ne peut pas lire non plus. Hein, c'est simplement le titre. Et donc, c'est effectivement cette question du faux-semblant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour les livres de mettre chez soi des livres qui n'en sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire de dire aux autres, tiens, regarde, je me suis fait une bibliothèque entière, mais de faux livres. Et évidemment, le premier mouvement, c'est de se dire, mais c'est une catastrophe, c'est affreux, c'est vraiment souhaiter la mort du livre, c'est pathétique, il n'y a plus rien dedans.
Mais ce que dit Anne, c'est sa mère.
C'est ce que dit Anne, c'est sa mère, qui en gros n'arrête pas de lui dire qu'elle poignarde Homer et tout, de la littérature dans le dos, et que c'est affreux. Et moi, je n'ai pas du tout ce regard-là, c'est-à-dire que pour moi, l'idée de mettre un livre, même si on ne peut pas l'ouvrir, sur son étagère, ça a vraiment un sens. Ça veut dire qu'on a choisi cet objet-là. L'objet qu'on a sous les yeux, c'est un livre. Ça pourrait être tout à fait autre chose, mais c'est un livre. Et nous, on a tous des bibliothèques chez nous. Et si on se demande combien de fois on sort les livres qu'on a déjà lus de la bibliothèque, à peu près jamais. Donc on sait ce que c'est que d'avoir des livres dont on a juste la présence, mais qu'on ne consultera plus, qu'on ne lira plus. Donc pour moi, c'est vraiment une idée, c'est cette question de la présence des livres, et que les livres sont des statues sacrées, quoi, des espèces de totems, et que la seule chose qui compte, c'est que c'est une inscription, en fait, dans le temps. C'est que la lecture, elle a déjà eu lieu, et même si on ne lit pas le livre, la présence du livre, elle veut dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je parle de ça, je m'énerve sur les histoires de tablettes numériques et tout. Je pense que ça fait...
Oui, parce qu'on est dans la disparition de l'objet livre de plus en plus.
Oui, et puis en général, quand on dit ça, tout le monde vous engueule en disant « Ah, mais alors vous êtes bibliophile, on s'en fout de l'emballage, c'est l'intérieur qui compte. » Non, mais bien sûr, c'est l'intérieur qui compte. Mais en fait, l'extérieur compte énormément, parce que l'extérieur, c'est vraiment un objet qu'on se passe là aussi de corps à corps, qui a un sens. Les enfants, ils savent très bien, ils voient tout à fait la différence. Un livre, ça se mange, on arrache les pages, etc. Une tablette, c'est indifféremment le truc où on fait un jeu vidéo, l'endroit où on va sur Internet, le machin.
C'est pas chargé.
Donc voilà, ça a pas ce sens symbolique qui fait que l'objet, il existe, il rayonne tout seul. Et moi, je vais beaucoup dans des lycées, rencontrer des lycéens pour leur parler de littérature, leur faire écrire de la poésie. Et c'est une génération qui s'approche pas énormément des livres. Parfois très peu, parfois pas du tout du tout. Et donc, j'essaie de savoir quelle place a encore ce livre. Si on se raconte des histoires en disant que cet objet il est particulièrement menacé, qu'on arrive à une sorte de fin de l'histoire du livre, ou s'il y a encore de beaux jours devant lui. Et je me rends compte que sur ce petit point, ce détail qui n'en est pas un, qui est très très important, qui est vraiment c'est la vie, ça veut dire c'est la vie vivante et sensuelle du livre, que ça se touche, qu'il y ait des pages, qu'on puisse les tourner, les corner, les bons, il y a la possibilité d'une disparition. Parce qu'à partir du moment où le livre, c'est une option parmi 1000 divertissements qu'offre une tablette. On voit même que dans ce que, voilà, d'un point de vue symbolique, on accorde d'importance à cet objet, il a plus ce côté absolument unique et indifférencié qui fait cet objet, on l'identifie comme livre, et c'est toute une histoire millénaire. Et donc voilà, je suis très très chiante avec ça, et je n'aime pas les tablettes.
Il est également question de violence, évidemment, mais de plusieurs violences, en fait. Les violences objectives, spectaculaires du metteur en scène, et puis des violences plus insidieuses. Alors, on va commencer avec le metteur en scène, hein, qui met en scène toujours la même pièce.
Oui. Donc, le compagnon de Sabine met toujours en scène Titus Andronicus de Shakespeare. Et ça fait, depuis 20 ans, il met tout le temps en scène cette même pièce, qui est donc une pièce ultra violente de Shakespeare, qui raconte un cycle sans fin de vengeance entre un général romain imaginaire, Titus, et la reine des Goths. Et c'est extrêmement violent. Et là, en fait, dans le roman, la pièce qu'il est en train de travailler, c'est une adaptation de Titus, du dramaturge contemporain Botho Strauss, qui s'appelle Viol. Et voilà, moi c'est une pièce qui m'a fait très 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 forte impression quand je l'ai lue, mais presque une impression de, à ce niveau-là de violence, ça n'a plus aucun sens. C'est comme si pousser la violence à son maximum, non seulement ça ne touche plus, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus comment nommer ça, on ne sait plus ce que ça veut dire violence, si violence c'est ça. Ça ne fait rien, c'est comme si ça tombait sur un mur en parpaing. Et donc ça, voilà, ça m'intéressait de mettre face à face cette violence qui met en scène tout le temps et qui est écrite dans le texte, et puis la vraie violence qu'il fait subir en fait sur le plateau, qui est une sorte de violence psychologique parce qu'il harcèle ses comédiens pour sortir quelque chose d'eux, il est hyper méprisant avec eux, il les tord comme de la pâte à modeler pour en tirer quelque chose. Et c'est celle-là la vraie violence de la pièce.
Il est dans la jouissance.
Ah oui, alors il est tout à fait dans la jouissance. Il est acclamé par la critique. Et il est acclamé pour une raison qui, moi, m'a toujours agacée. C'est que j'ai remarqué que quand les metteurs en scène montraient de façon extrêmement impressionnante et crue des scènes de violence, on partait toujours du principe que c'était une dénonciation de la violence, que c'était forcément un geste pacifique. Parce que quand on la montre à ce point-là, évidemment, c'est une façon de dire... Voilà, regardez l'horreur que c'est. Et ça, je me dis, c'est un point de vue qui n'est pas celui du créateur qui est plongé dans sa matière violente quand il écrit ou quand il met en scène. Bon, quand on écrit, on sait très bien qu'on a un rapport très, très immédiat, très physique à ce qu'on écrit. Et quand on écrit une scène de violence, elle passe par nous. Donc il faut s'interroger sur ce trouble que c'est, qui est ambigu, qui n'est pas toujours net, je ne sais pas comment le dire. Écrire sur la violence, ce n'est pas un jugement moral porté sur la violence, on ne peut pas se tenir à distance de ça. Quand on écrit, on est plongé longtemps, des mois et des mois ou des années dans un texte, et on est très très proche de ce qu'on est en train d'écrire. Donc, très proche au sens où il se passe quelque chose. Ce n'est pas forcément de la jouissance, ce n'est pas forcément cette perversion-là, mais en tout cas, on a un rapport d'intimité avec cette violence qui ne peut pas se limiter à « quelle belle dénonciation de la violence ». Ça, je n'y crois pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça.
il y a la violence qu'on nomme pas, donc
dans les rapports humains, et puis il y a une violence qui est partout dans ce roman, mais qui est là pour le coup invisible, c'est la présence de caméras de surveillance partout. Donc c'est une... Tout le monde installe des caméras de surveillance chez soi, il y a un petit jingle, il y a
vous avez raison d'avoir peur.
Voilà, vous avez raison d'avoir peur, c'est le slogan. Et moi, ça, c'est ce sentiment qu'on anticipe la violence, que les caméras sont là pour enregistrer psychologiquement l'état d'esprit d'une population en disant, même si là, c'est pas encore violent, vous inquiétez pas, la violence, elle va arriver. Là, toutes ces caméras, c'est la preuve du frémissement général violent qui va jaillir d'un seul coup. Et je trouve que cet état d'attente de la violence, c'est une immense violence en soi. C'est très différent de se dire que la violence est une sorte de dysfonctionnement et que quand elle arrive, on n'est pas préparé. C'est troublant, c'est destructeur, c'est tout ce qu'on veut, mais ça vient comme une déviation dans l'existence. Et c'est autre chose de se dire que elle est tellement intégrée que on nous fait en plus subir cette attente de la violence. Ça c'est quelque chose. Je finis pas cette phrase. Non, je réfléchissais à ce que ça voulait dire. C'est aussi cette idée que l'idée que ce serait un soulagement, qu'on a un sentiment, un surplus de sentiment de sécurité, bah, c'est vraiment pas être très attentif à ce qui se passe dans le corps quand on repère des caméras partout. Moi, je pense que c'est un sentiment qu'on est tous capables d'éprouver, que cette présence de ces petites boules noires un petit peu partout, de ces yeux qui peuvent à la fois rien faire, parce qu'il va, ça va rien empêcher, mais qui permettront de consigner dans un deuxième temps la violence qui a été faite, bah, c'est quand même un peu inquiétant du point de vue du sentiment politique d'alimenter cette anxiété générale.
Donc vous, du coup, vous préconisez plutôt de s'armer avec cette phrase très belle qui est « La vie est une livraison au loup » pour raconter un conte. Ouais. Alors expliquez-nous ça.
Oh là là, alors, la livre, alors c'est un conte que j'ai beaucoup lu à mes enfants, qui s'appelle « La chèvre et ses sept petits chevreaux ». C'est ça, c'est « La chèvre et ses sept chevreaux ». Et donc moi j'ai toujours été étonnée quand j'étais petite et qu'on me racontait ce conte. Je me disais, mais la mère en gros leur dit... les enfants, faites attention au loup, le loup rôde, il va venir, moi je pars faire les courses, mais attention, le loup va venir et tout ça. Et je me disais, mais que ne prend-elle pas ses enfants avec elle pour aller faire les courses? Ça me paraissait très étrange comme solution de simplement dire, ah, attention, le loup rôde. Et là, je me dis, en fait, la mère dit, le loup rôde et le loup va venir, et effectivement le loup vient et bouffe tous les enfants, sauf un, dit le conte. Et ben c'est simplement parce que, voilà, la vie est une livraison au loup, au sens où, de toute façon, ça va arriver, mais puisque ça va arriver, ce qu'il faut, c'est armer aussi son corps et se dire qu'à ce moment-là, bah, on saura quoi faire ou on ne saura pas quoi faire, mais rien ne peut nous en protéger. Il n'y a pas une mère au monde qui peut nous mettre sous cloche, qui peut nous emmener toute sa vie au marché avec elle, nous regarder près de son corps tout chaud pour... Voilà, donc pour nous... Enfin, c'est une réflexion que doit se faire à peu près tout parent, c'est de se dire, si à un moment donné je ne capitule pas, si je ne me dis pas que cette livraison au loup, c'est l'histoire de notre vie, notre façon de grandir, alors on peut penser à une agression brutale, mais la livraison au loup, ça veut simplement dire grandir et surmonter soi-même ses déceptions, ses chagrins, ses échecs, tout. C'est pas forcément le loup mordant et masculin au coin de la rue. Ben voilà, donc c'est ce moment où on accepte, ou je sais pas, on fait allégeance à cette livraison au loup. Et alors, quelle était votre question par rapport à cette livraison?
Non, c'était de m'expliquer. Bah, en fait, vous parlez de s'armer plutôt que par rapport aux caméras de surveillance qu'on va mettre et qui ne vont rien changer à part nous mettre dans un climat d'insécurité permanent. Cette livraison au loup, c'est l'idée qu'il vaut mieux s'armer soi-même. Et je vais enchaîner sur une autre question qui serait, est-ce que, par exemple, la poésie permettrait d'être un rempart à la violence dans cette observation des choses qui est décalée? Le fait de...
Oui, alors la première façon de s'armer, c'est armer son corps. Ça veut dire se dire qu'il y a aussi une violence du corps, une possibilité de répondre avec violence qui n'est pas une forme d'impuissance, qui n'est pas la dernière réponse parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen. Parfois, si le problème vient du corps, si c'est le corps qui est agressé, alors il faut se dire que c'est comme une danse, quoi. Une danse, ça fonctionne, il y a deux danseurs, et c'est une entente, c'est une façon de comprendre qu'en fonction des mouvements de l'autre, je fais un mouvement. Et que tout ne peut pas se résoudre avec une forme de parole qui viendrait annuler le corps de l'autre, le mouvement, la violence. Non. Donc il y a aussi, il y a d'abord, c'est deux choses très éloignées, il y a effectivement cette question, je vais revenir dessus, poétique comme solution, mais il y a aussi, et c'est un petit peu, sans en dire trop, la solution qui va être envisagée dans ce roman, il y a un moment, il n'y a peut-être que le corps qui est capable de répondre à l'offense qui a été faite au corps. Et puis la question poétique, et ben ça c'est ma question à moi, c'est-à-dire que moi, en tout cas à titre personnel, c'est toujours ce que j'ai choisi, c'est de se dire, ben, si vraiment tu ne sais pas quoi faire de ces rapports de force, tu ne sais pas quoi faire de cette situation sociale, tu ne sais pas, bon, il restera toujours cette possibilité poétique d'observer d'une façon qui fait que on te laissera tranquille parce que il sera uniquement question de contemplation. Ça veut dire que tu vas plus juger les situations en termes seulement de rapport de force, mais simplement de te dire qu'est-ce que je peux, comment est-ce que je peux regarder les choses pour vivre avec les objets ou avec les sensations comme dans des relations d'amitié. Voilà, c'est vraiment la question de la poésie. C'est pas cette chose solitaire qui nous exclut, c'est cette manière de trouver un rapport au monde, en général d'ailleurs de tendresse, de douceur, dans les toutes petites choses qui font que bah, si tous les grands, voilà, si, si rien ne fonctionne, si tout est agressif, et en vous disant ça, je pense à Evgenia Ginzburg, hein, cette jeune militante communiste qui s'est retrouvée au goulag dans la Colima et qui a raconté dans un livre magnifique cette expérience, et qui s'est littéralement sauvée, mais alors là au sens propre du corps qui se sauve, hein, qui survit à la mort par la poésie, et qui se répète, et qui connaît par cœur des textes de grands auteurs russes, qui non seulement se les répète à elle-même, qui se récite Pouchkine, mais qui les récite à ses geôliers, et qui vraiment survit de ça. Et moi, quand je lis ce genre de texte, je me dis, c'est pas une métaphore. Ça veut pas dire que les romans, la littérature, la poésie est porteuse de toute notre humanité, et qu'on voilà, on pourra se relever grâce à elle. Ça veut dire qu'il y a une sorte de... Il y a physiquement un pouvoir, voilà, un pouvoir de baume qui soigne, et d'espoir, qui fait que, ouais, que ça sauve. Enfin, moi, je dis ça vraiment aux jeunes lycéens que je vois. Je leur dis vraiment, je plaisante pas, si vous ne lisez pas, c'est pas que vous passez à côté d'un truc intéressant, sympa, rigolo, distrayant. Si vous ne lisez pas, vous allez crever. Voilà. Et je tiens vraiment à leur dire que je crois à cette puissance de vie, de survie de la littérature.
Il est 7h, est-ce qu'il y a des questions?
Oui.
Il ne marche pas ? Non.
Ah ben voilà. Donc,
bonsoir. Donc, j'ai plein de questions, mais je vais en laisser pour les autres. La première, ce serait de savoir d'où est venue cette histoire, ces personnages si atypiques, cette histoire si atypique.
Alors, ça c'est toujours une question compliquée quand on demande d'où vient l'histoire, que ce soit pour ce roman ou pour les précédents, parce que je n'en sais rien. Il y a des auteurs qui pensent très en amont à ce qu'ils vont écrire et qui se disent pendant longtemps « je rêverai de parler de tel ou tel sujet, thème, personnage ». Et moi j'ai une façon d'écrire qui ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire je commence à écrire, là par exemple j'ai commencé à penser à cette mère, et à cette mère qui... de façon voilà, écrasante, s'adresse à sa fille et la submerge de conseils, de reproches. Donc souvent, je parle d'une voix qui peut-être vient d'une personne que je connais, mais ce n'est pas identifié. Et à force d'écrire, naissent d'autres personnages, une situation, etc. Et j'écris pendant des semaines, des mois, j'écris en fait 100 pages, 200 pages. Et quand enfin tout le monde est né, quand j'ai tous les personnages, toutes les situations, tout, et que je comprends de quoi je parle, je recommence tout, absolument tout. C'est-à-dire, je garde rien, je garde pas un seul mot. Donc là, j'ai écrit d'abord une sorte de version qui n'était pas du tout cette version, avec toutes ces formes différentes. Ça n'allait pas du tout. Et j'ai commencé une version qui avait cette forme-là et qui était uniquement des messages téléphoniques de la mère. Tout ce roman n'était qu'un message téléphonique géant. Et quand j'ai compris qui était tout le monde, où j'étais, de quoi il s'agissait, j'ai tout recommencé, et voilà ce roman. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai eu cette idée de poupée, par exemple. Je pense quand même que, vraiment, ça me faisait plaisir de... Comment on passe du temps avec les objets qu'on choisit dans un roman ? Je me disais, si tu dois passer du temps avec cet objet qui vraiment te dégoûte et que tu ne comprends pas, ça sera intéressant, parce qu'il va falloir en faire autre chose, et donc, je pense que j'avais une sorte de petit défi devant cette poupée terrible, mais sinon, quand les gens disent l'inspiration, ça n'existe pas, ce qui existe, c'est le travail et tout, je ne me sens pas très concernée par cette remarque, parce que le travail, je vois bien ce que c'est, mais je vois encore mieux ce que c'est que ce sentiment hyper irrationnel et magique de « les choses viennent à eux ». Quand je dis « viennent », c'est que je les vois et je les écris, comme si le roman existait à un stade inconscient de moi, et que je n'avais qu'à le traduire, j'avais à le traduire en mots. Voilà, donc c'est très très flou comme réponse.
J'ai beaucoup beaucoup aimé, vraiment, c'est un grand coup de cas. Deuxième question, qui est l'idée de la couverture en fait du bandeau? Parce que franchement...
C'était Louise, mon éditrice, qui est là. Et Louise d'Ormesson.
Une autre question?
Madame.
On va passer aux dédicaces. Moi, je voudrais lire juste, puisque sur ce rapport entre le théâtre que vous faites en permanence et le théâtre qui est la vie, les liens qu'il y a entre la fiction et la réalité, il me fascine ces liens minuscules du flirt. Tout se noue au ciel dans des mains divines.
les dialogues sont soufflés. Un homme invite une femme à boire un café. La scène est souple, minutieuse, enchantée, comme des pas de danse longtemps répétés. Merci beaucoup d'être venu. Je vous rappelle que L'enlèvement des Sabines est en vente ici et que c'est un livre à la fois drôle et cruel, aérien et profond, poétique et moderne.
Oh, ça a l'air bien.
J'aimerais bien que vous me dédiquiez une question. Vous pouvez donner un stylo.
Oui, il y a tous les petits stylos.
Ah bah super, vous êtes là. Je vais vous mettre un stylo. Voilà. Je vais me mettre direct. Voilà.
C'est mon deuxième. Ah.